9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 2. Le club de l'été d'Europe 1 a ouvert ses portes depuis hier. Entrée gratuite pour tout le monde. Un seul mot d'ordre, le partage. Partagez un coup de cœur pour une pièce, un film, un livre, un documentaire. Partagez un bon plan pour une visite et quelques gourmandises culinaires. Deux heures qui seront aujourd'hui rythmées par les mots écrivain, conquête, jardin et pissaladière. Un combo qui nécessite un décryptage par deux experts. Lise Pressac pour le tourisme et la culture, Olivier Pouls pour la gastronomie. Salut les amis.
Salut Eva, bonjour à tous.
Comment ça va ?
Bonjour Eva, ça va très bien. De mieux en mieux.
Oui Olivier, vous avez bien digéré votre club d'hier.
Et surtout la côte de bœuf.
La côte de bœuf, vous l'avez mangée hier ? Non.
Oui.
Mais en revanche, vous avez mangé du foie gras en studio. J'ai cru que vous alliez être malade. C'est pas possible.
Ils nous ont rien laissé.
Je vous avoue que
quasiment.
J'avais pas très faim pour le déjeuner après. Mais
oui,
bon, pareil. C'est entre nous.
Lise, grâce à vous, on va chausser nos espadrilles pour visiter un coin de France. En l'occurrence, on part où ce matin ?
On ira à Antibes-Juan-les-Pins visiter un jardin botanique.
Génial.
Et là, vos yeux s'éclairent.
Oui, mes yeux s'éclairent. Antibes, la ville que j'aime tant. Ne dites rien sur les plats à déguster, Olivier, pour l'instant. Vous dites rien. On va découvrir ça ensemble. En revanche,
c'est encore à manger.
Oui, mais en revanche, vous nous dites quel sera le sujet de votre vrai faux culinaire.
On a parlé du barbecue hier et ça fait un gros débat. J'y reviendrai un petit peu après tout à l'heure. Le barbecue, finalement, qui l'a inventé ? Sont-ce les Mongols, tiens ?
Mais moi, j'avais jamais entendu cette affirmation ou cette théorie qui affirmait que c'était les Mongols qui avaient inventé le barbecue.
On va voir ça tout à l'heure.
Vous allez nous raconter tout ça. On va terminer d'ailleurs l'émission avec une nouvelle recette de barbecue. Autant de nourriture terrestre à découvrir et savourer pendant ces deux heures de direct. Ce club de l'été, c'est le vôtre. À vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité, est connu dans une quarantaine de pays. Et encore, je pense que je me trompe un petit peu d'une dizaine. Il est abonné au succès depuis 15 ans. Cher invité, tendez l'oreille. Les sons qui suivent racontent des tout petits bouts de vous.
Et si c'était un jeu ? Il fallait aller jusqu'au bout. Vous auriez été un salaud, mais au moins c'est dans la vie. Mais là, c'est rien. Vous n'êtes rien.
Peut-être simplement qu'on a peur.
J'ai vu une lumière et je me sentais bien.
Mais tu es revenu.
Oui.
Pourquoi es-tu revenu ?
J'utilise souvent la nature dans mes scènes. Parce que ça fait partie de mon univers. J'aime que la nature joue un rôle dans la vie de tout le monde. Ça me plaît.
Bonjour Guillaume Musso.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce club de l'été sur Europe 1 avant d'évoquer votre carrière et votre dernier roman La vie secrète des écrivains, publié chez Kahneman Lévy. Vous pouvez nous dire ce que vous venez d'entendre ?
Alors, j'ai entendu un extrait de mon film préféré, qui est Un cœur en hiver,
oui, de Claude
Sauté, avec Daniel Auteuil et Emmanuel Béart. Pourquoi est-ce que j'aime ce film ? Pour moi, c'est l'un des films les plus littéraires, ceux qui captent le mieux la confusion des sentiments et la vie secrète, justement, qu'on porte tous en nous. Puis, il y avait un petit bout de « Et après », qui est l'adaptation d'un de mes romans, avec John Malkovich et Romain Duris, New York forcément.
Pour Alice Akis,
ouais.
Parce que vous aimez New York,
pendant longtemps, effectivement, il y a mes romans s'y déroulaient, parce que c'était un théâtre extraordinaire, la ville dans laquelle tout peut arriver. Et il y avait un extrait d'un écrivain américain dont je n'ai pas reconnu la voix.
Oui, c'était Pat Conroy.
Ah oui, bien sûr.
Un extrait d'un entretien avec François Bunel.
Bien sûr, et qui est l'auteur, effectivement, de mon roman préféré qui s'appelle Le Prince des Marais, qui est pour moi la quintessence de la littérature américaine.
Et on a entendu quelques bouts de piano en début d'extrait, en début de portrait, ce qu'on est en train de entendre. Je sais que c'est un pianiste que vous aimez beaucoup et il me semble que vous l'écoutez parfois en travaillant.
Qui Jarrett ?
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Oui, que j'écoute depuis une vingtaine d'années, en fait, depuis que j'écris. Et Jarrett est toujours associé pour moi comme une sorte de réflexe pavlovien au travail.
C'est vrai.
Donc parce que je sais que quand je l'écoute jouer, et je suis allé le voir d'ailleurs plusieurs fois, il a joué à la Pinède,
bien sûr.
Et donc, ça fait partie des choses intangibles et des rituels de l'écriture.
Donc vous le mettez, et paf, vous vous mettez à travailler.
Ouais, ça aussi.
J'adorerais avoir un truc comme ça.
Moi aussi.
Un peu plus compliqué que ça. Non, mais c'est vrai que Jarrett, Philip Glass, tout ça, ce sont des artistes effectivement qui m'ont toujours accompagné effectivement dans la création.
Au point de vous inspirer.
Oui, alors je ne sais pas exactement par quel mécanisme, mais en tout cas, oui, c'est le fait de baigner dans ces musiques-là qui parfois peut déclencher quelque chose.
Alors, Guillaume Musso, avec vous publiez un nouveau roman, La vie secrète des écrivains, chez Calman Levy, c'est ce qu'on disait, avec un titre pareil, La vie secrète des écrivains. On vous imagine soit agent secret menant une double vie, ou en tout cas une existence pleine de mystères. Est-ce que c'est le cas ?
En fait, le titre fait écho à une phrase de Gabriel Garcia Marquez qui dit finalement chaque individu porte en lui trois vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Et donc, c'est la vie secrète, c'est ce qu'on a en nous et qu'on ne souhaite pas forcément partager avec les autres.
Alors, vous racontez le destin d'un écrivain, Nathan Foles, je ne sais pas si on prononce bien,
oui,
parce
ça.
Que voilà, il a écrit trois succès, puis il a décidé de se retirer sur l'île de Beaumont et de ne plus écrire une seule ligne. Alors, sauf que sur cette île, on va retrouver le cadavre d'une femme, il y a un meurtre, des secrets bien gardés, des personnages complexes aux vies multiples et avec une réflexion sur la littérature. Voilà comment on pourrait résumer votre livre, on va y revenir. Et votre personnage dit à un moment donné, page 55 exactement, « L'existence d'un écrivain est le truc le moins glamour du monde. Tu mènes une vie de zombie, solitaire et coupée des autres. Tu restes toute la journée en pyjama à t'abîmer les yeux devant un écran en bouffant de la pizza froide et en parlant à des personnages imaginaires qui finissent par te rendre fou. » Est-ce que ça va bien, Guillaume Musso ?
Oui, ça va bien, parce que là, justement, je suis dans les...
Il s'est habillé pour venir.
Je suis dans les deux mois, effectivement, où je n'écris pas et où donc je peux avoir une vie un peu plus normale. Oui, non, effectivement, c'est être reclus, c'est être solitaire. J'ai pas encore trouvé le moyen de ne pas passer par la case travail. Et c'est ce que j'aime faire le plus au monde. Enfin, Graham Greene disait écrire c'est un délicieux martyr, et oui c'est à la fois j'adore écrire, enfin j'adore avoir écrit, je déteste écrire, disait Anaïs Nin, oui. et on a effectivement cet antagonisme là lorsqu'on écrit.
Alors je sais que vous avez souvent dit ne pas écrire sous la contrainte, mais est-ce que vous pensez parfois à la fin, c'est-à-dire à ce jour où vous n'écrirez plus comme votre auteur dans le roman ?
Non, parce que ça structure tellement ma vie aujourd'hui que c'est devenu une seconde nature. Depuis que j'ai 15 ans, depuis la classe de seconde, je crois que je me lève tous les matins en essayant de chercher des histoires à écrire. Donc il n'y a pas de bouton off. Un écrivain n'est jamais en vacances. Soit il écrit, soit il pense à ce qu'il va écrire.
Mais il y a plein de façons d'écrire. Chaque écrivain
a
son univers. Il y en a qui vont s'isoler dans une maison pendant 15 jours et puis ils vont essayer de sortir. Puis il y en a qui écrivent tous les jours de manière régulière, d'une certaine heure à une autre. Et vous fonctionnez comment ?
Moi, je travaille aussi
tous
les jours. Non, mais parce que ça structure ma vie, parce que j'aime ça, parce que Stephen King disait. Pour écrire, il faut fermer une porte. Fermer une porte, ça veut dire trouver un moyen de s'extraire de son quotidien pour rentrer dans le monde imaginaire. Et moi, ma façon de faire ça, c'est d'être assidu et régulier à la tâche.
On a jusqu'à 11h, hein, Guillaume Musso, pour évoquer votre roman, pour comprendre qui vous êtes et quelles sont vos sources d'inspiration. Elle est chanteuse et elle parle de la pression quand le succès arrive. Angèle chante Flou sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
J'ai commencé par Instagram, c'était cool, j'avais un très bon programme. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Ensuite tout a changé très vite, même mes amis ils ont changé. Tout est devenu plus simple, enfin surtout pour entrer dans les soirées. On connaît tous la pression, tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou, un peu trop fou. Ça va pas durer, ou peut-être seulement quelques mois. Voilà, je commence déjà à angoisser. Crise après crise, j'arrive plus à être moi. On connaît tous la pression,
tu te sens un peu seul au monde, c'est pas qu'une impression. Les gens t'aiment pas pour de vrai, tout le monde te trouve génial alors que t'as rien fait. Tout est devenu flou.
La vie est floue pour Angèle et pourtant tout lui réussit, comme pour vous Guillaume Musso. Dans un instant, on est en train de comprendre à quoi ressemble le métier d'écrivain. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été, Eva Rock.
Il est 9h23 et nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été. Notre invité du jour est l'écrivain Guillaume Musso. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux.
Réseaux sociaux,
c'est dur à dire, via Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer vos messages, vos questions également. Il y a une question d'ailleurs,
oui,
Lise.
Oui, il y a déjà une question pour vous, Guillaume. C'est Valérie qui demande, j'aimerais savoir à quel point le fait d'être méditerranéen a-t-il influé sur votre écriture ?
Ah.
Alors, pendant longtemps, j'ai essayé de garder ça à distance parce que j'avais du mal à déclencher effectivement mon imaginaire par rapport à des choses trop proches de moi. Et en avançant dans l'âge, disons, c'est quelque chose finalement qui revient de plus en plus et j'ai de plus en plus envie. Effectivement, mes deux, trois derniers romans se situent en France et dans des atmosphères beaucoup plus méditerranéennes. Et je pense que c'est pas fini.
L'île voilà. De votre dernier roman, d'ailleurs, Méditerranée, il faut avouer qu'Eva a cherché sa localisation et même un R&B pour aller passer
vrai.
Ses vacances.
C'est très gentil de dévoiler ce que je vous dis en hors micro, beaucoup Olivier de... Pouls. Je vous remercie.
Alors que l'île n'existe
pas. Beaucoup d'éditeurs étrangers aussi, effectivement, sont allés sur Wikipédia pour voir si l'île Beaumont... Exister. En fait, non, c'est un mélange entre Porquerolles, entre des îles grecques, entre la Corse, entre un petit peu le Cap d'Antibes.
Ouais.
Et l'idée, pourquoi une île ? Vous savez, île en anglais, c'est island. Et island, si on décortique ça, c'est le territoire du moi. Et donc, je voulais que l'île soit une sorte de métaphore, en fait, de la vie secrète de mes personnages.
Et puis, ça fait une sorte de huis clos aussi.
Et oui, voilà,
parfait
c'est
pour
à la fois.
Un roman policier.
Au début, on est dans une atmosphère. Paradisiaque, bucolique, et plus l'histoire avance, l'île est soumise à un blocus, les éléments commencent à se déchaîner et l'île est après vécue comme une prison.
Alors, il y a une question d'ailleurs que j'aime poser aux auteurs et qui peut paraître un peu anecdotique, mais comment vous choisissez les noms de vos personnages et des lieux de vos romans, justement ?
Alors, si Simon prenait l'annuaire, il ouvrait. Et voilà. Non, ça, c'est un très très gros travail parce que dès que. Enfin, il faut que le nom du personnage finalement, enfin le personnage va nous accompagner pendant un an et il faut que voilà qu'on soit à l'aise avec ça. Donc c'est des listes, des patronymes, voilà. Ou alors si je me dis voilà je vais partir avec tel personnage qui est dans la France côté est, je vais prendre une liste de patronymes. De l'Est, et
de
voilà,
l'Est
et voir, et associer avec un prénom, jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que mon,
ça résonne bien,
je me sente à l'aise.
Ouais. Il n'y a pas de message caché avec des gens à qui
non,
vous avez envie d'envoyer
jamais,
des petits...
Non, jamais, je règle jamais. Non, j'ai une trop haute estime pour ce que c'est que écrire pour essayer de régler des comptes comme ça à travers le roman.
Dans le club de l'été, on propose régulièrement un petit exercice à notre invité. On va imaginer que vous êtes à votre bureau, vous êtes prêt à écrire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la première odeur qui,
qui arrive jusqu'à vos narines.
La pizza froide.
Non, non, on est à son bureau.
Non, ça serait, non, oui, ça serait le café, non, forcément. Oui, oui, je carbure pas mal.
Vous carburez au café ?
Oui, mais parce que c'est aussi, voilà, c'est y a des rituels qui font que, justement, pour fermer la porte, pour prendre l'expression de King, il faut... Il y a un certain nombre, effectivement, de rituels à faire, le café en étant.
Vous écrivez toujours au même endroit ?
Moi, je n'écris jamais chez moi. Ça, c'est vraiment une règle. Chez moi, c'est le territoire du couple, de la famille. Et donc, j'accompagne mon fils à l'école le matin et je vais dans un bureau. Alors, pendant des années, c'était un atelier que je louais. Ça peut être... Je peux écrire chez mon éditeur. J'ai aussi un bureau à moi dans Paris, donc c'est en tout cas un lieu qui est dédié uniquement au travail.
Et qu'est-ce que vous y voyez par la fenêtre, s'il y a une fenêtre ?
Par la fenêtre, non, ouais, le ciel, les éléments, mais justement, j'essaye de pas trop me laisser distraire par ce que je peux voir.
Oui, c'est jamais dans un lieu public, par exemple, c'est jamais dans un café.
Alors, je sais qu'il y a mon copain Bernard Werber écrit tous les matins, effectivement, dans le même café... et qu'il a besoin effectivement de cette vie autour. Alors ça c'est bien pour chercher des idées,
oui,
pour essayer de capter des atmosphères, des conversations, des dialogues. Beaucoup plus dur quand vous êtes dans le dur de l'écriture, où là effectivement vous avez besoin davantage de calme.
Dans un instant, Guillaume Musso, vous allez nous faire partager un coup de cœur pour une pièce de théâtre et nous recevrons Christophe Lasserre-Ventura. C'est le petit-fils de Lino Ventura qui aurait eu 100 ans le 14 juillet. A tout de suite pour la suite du Club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h, le Club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le Club de l'été. Notre invité est l'écrivain Guillaume Musso, dont le dernier roman, La vie secrète des écrivains, est un des succès littéraires de l'année. J'ai envie de dire comme chaque année. Chaque jour, notre invité nous propose un coup de cœur. Vous avez choisi, Guillaume Musso, de nous parler d'une pièce de théâtre intitulée Hors-la-loi, qui vient à peine de s'achever à la Comédie Française. C'est une pièce qui retrace le procès de Bobigny, au cours duquel une jeune femme fut jugée pour avoir avorté après un viol. Nous étions alors en 1972, et c'est ce procès qui a conduit à la loi Veil votée 3 ans plus tard. Pourquoi ce choix ?
Parce que le théâtre de Pauline Bureau, pour moi, comme celui un petit peu de Michalik, c'est un théâtre moderne, populaire et de grande qualité, intelligent. Et cette pièce en particulier, oui, est assez incroyable. Et ce procès en 72, donc c'était une jeune femme, hein, Marie-Claire Chevalier, qui a avorté après avoir été violée. Et voilà, lorsque je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quand même dingue qu'en France, il y a eu ce débat-là.
Mais
il n'y a pas si longtemps, ouais. Voilà, c'est ma naissance. C'est, et où, effectivement, je crois que je ne comprendrai jamais, en fait, comment, à un moment donné, des hommes, des gens peuvent, à ce point, s'opposer à ce que... on évite, voilà, ces grossesses non désirées. C'est d'autant plus flippant, qu'aux États-Unis en ce moment, il y a ce mouvement où il y a de nombreux États qui essayent de durcir effectivement les conditions pour pratiquer un IVG. Et ça, c'est quand même dément.
Merci beaucoup Guillaume Musso pour ce choix. Alors malheureusement la pièce est arrêtée, mais je pense qu'elle sera rejouée régulièrement. Allez-y, c'est vraiment une très belle pièce. Thierry Geffrotin, notre spécialiste théâtre à Europe 1, nous en avait longuement parlé déjà. Guillaume Musso, avec l'équipe du Club de l'été, on souhaitait aussi vous faire part d'un coup de cœur pour l'association Personnage, fondée par Lino et Odette Ventura, afin de venir en aide aux personnes handicapées.
Lino Ventura aurait eu 100 ans le 14 juillet. 100 ans de respect, de générosité et de coup de gueule.
Ce n'est pas de la pitié que ces gens-là veulent. Au contraire, c'est de la justice et de la chaleur humaine.
Comme Lino Ventura, je soutiens la Fondation Personnage. Alors en juillet, on se bleu, blanc, bouge.
Bonjour Christophe Lasserre-Ventura, merci infiniment d'être avec nous en studio ce matin.
Bonjour.
Vous êtes le petit-fils de Lino Ventura, on vient d'entendre la voix de Bruno Solo qui porte le spot qu'on peut entendre en ce moment pour votre association Personnage. Avant de parler de l'association, je voulais simplement revenir un instant sur votre grand-père parce qu'il aurait eu 100 ans cette année, le 14 juillet. Quel est le premier souvenir qui vous revient en mémoire quand on parle de lui ? Est-ce que c'est une odeur, une vision, un son, le son de sa voix ?
Non, c'est sa carrure, c'est sa prestance, c'est sa force de caractère. C'était un homme qui occupait l'espace et duquel j'étais très admiratif.
Personnage, c'est combien d'établissements aujourd'hui de personnes qui sont accueillies ?
Personnage, c'est une très belle fondation qui a 50 ans, un peu plus de 50 ans, et qui accueille aujourd'hui plus de 1300 personnes en situation de handicap dans une petite quarantaine de maisons réparties sur l'ensemble du territoire national.
Et qui sont quel type d'handicap en fait vous accueillez en fait ?
Alors tout type de handicap mental, ouais. Nous accueillons des trisomiques, des personnes infirmes moteur cérébral, des X fragiles. Nous avons ouvert très récemment une maison pour personnes lisses, l'Octine syndrome à Boulogne, une maison expérimentale. Nous avons des autistes, on couvre tout le champ du handicap mental.
Vous voyez la société évoluer sur ce sujet du handicap et vous vous dites bon sang, il y a encore du boulot, on n'en finira jamais, ou il y a quand même des motifs d'espoir et de réjouissance sur l'acceptation et sur le traitement du handicap?
Je dirais que cela dépend de quel pied je me lève. Donc si on est un petit peu optimiste, c'est vrai qu'en 50 ans, le regard de la société a évolué, a changé sur le handicap mental. Mais il reste encore beaucoup à faire en termes d'inclusion. Il est évident qu'on a des situations qui sont encore inacceptables. Il manque en France près de 40 000 places d'accueil pour personnes en situation de handicap mental. Donc, selon les jours, je suis plus ou moins optimiste.
Quels sont les objectifs pour les années à venir ?
Eh bien, continuer à œuvrer pour ces enfants et ces adultes, pas comme les autres, comme les appelait pudiquement mon grand-père,
oui.
Pour leur donner un environnement d'accueil épanouissant et leur permettre de vivre dignement une vie qu'ils méritent, comme tout à chacun.
Alors, on l'a entendu dans le spot, hein, Bleu Blanc Bouge, c'est la campagne de sensibilisation que vous lancez à cette occasion. Comment on peut vous aider concrètement ?
Très concrètement, vous savez...
De l'argent, on est d'accord, le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre, absolument. Donc, cette campagne vise à interpeller le public sur, justement, la cause du handicap mental. Donc, on a trouvé que c'était à la fois une belle façon de commémorer les 100 ans qu'aurait eu mon grand-père le 14 juillet, qui fait un peu partie du patrimoine culturel français. Donc, c'était à l'occasion de cette fête nationale un bel hommage. Et surtout... De dire qu'on n'avait pas le droit de se défiler, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, à l'occasion de ce 14 juillet sur la cause du handicap mental. Donc le 14 juillet, on se bleu, blanc, bouge.
C'est deux très beaux jeux de mots. Guillaume Musso, je crois que vous êtes très sollicité par les associations. Vous avez participé à Ella,
si je ne me trompe pas. Voilà, ouais, c'était un projet effectivement hautement défendable. Ouais.
Et alors, quand vous entendez Christophe Lasserre-Ventura se bouger comme ça pour les handicapés, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis effectivement très admiratif de ça, bien sûr.
Merci beaucoup, Christophe Lasserre-Ventura. Juste avant de partir, votre film préféré avec votre grand-père ? Si c'est possible de répondre à cette question.
C'est une question difficile parce qu'il a...
Le film qu'on devrait voir dimanche, là, en ce 14 juillet. Je dis dimanche, je ne sais même pas si c'est dimanche le 14 juillet.
Si, c'est ça, c'est ça. Dimanche,
oui, c'est dimanche, oui. Je suis un peu perdue dans les dates, excusez-moi. C'est
le côté festif, je dirais que c'est plutôt l'aventure, c'est l'aventure.
Ah, mais quel film admirable.
Voilà.
C'est vrai. C'est oui, la bonne année.
À la bonne année.
C'est un très beau film également. Ouais. Ouais. Mais dans l'aventure, c'est l'aventure, il est probablement le plus. Le plus naturel au sens où il était plus comme ça dans la vie que comme il pouvait l'être dans sa première partie de carrière où il jouait les gros durs, ce qui n'était pas véritablement son naturel.
C'est peut-être la façon de tourner aussi de Claude Lelouch qui fait refaire les scènes à l'infini pour qu'il y ait cette perception et cette part d'improvisation. Merci infiniment Christophe Lasserre-Ventura d'être venu ce matin direct sur Europe 1. On va indiquer évidemment toutes les coordonnées de l'association sur notre site internet et sur Twitter. Merci infiniment. Guillaume Musso, dans un instant, on va continuer de parcourir la liste de nos envies avec nos coups de cœur écran. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Eva Rock.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Lis Pressac et Olivier Pouls. C'est ça le club de l'été d'Europe 1. Et comme tous les matins, nous avons un invité de marque, un écrivain reconnu internationalement, Guillaume Musso. Je disais une quarantaine de pays, mais est-ce que je ne me trompe pas d'une dizaine, Guillaume Musso ?
Oui, je crois que c'est 43.
Et quel est le pays où vous avez été le mieux accueilli ?
Il y a une histoire incroyable, effectivement, avec la Corée du Sud. Effectivement, en en Corée du Sud, c'est peut-être le seul pays où en fait un écrivain peut avoir l'aura d'un footballeur, c'est-à-dire un lectorat à la fois très jeune et très fan. Et effectivement, j'ai une histoire incroyable avec ce pays. Il y a eu un de mes romans qui s'appelle Sauve-moi, mon deuxième roman, qui est devenu culte là-bas et qui est un roman que s'offrent les jeunes Coréens. Alors, au début, c'était à la Saint-Valentin. Ensuite, c'est devenu pour déclarer leur flamme. Voilà. Et donc, c'est ce livre, chaque année, je continue effectivement à vendre beaucoup de.
Et on vous reconnaît dans la rue quand vous y allez
de romans. Alors, j'y suis allé une fois et effectivement, les Coréens sont très fans. Oui, ils ont besoin de montrer.
Mais en France, on doit vous reconnaître dans la rue quand même.
Oui, alors c'est pas ce que je préfère. C'est-à-dire que quand vous êtes au début, quand vous commencez à écrire, c'est pas du tout pour espérer un jour voilà, être dans cette. Lumière-là. Ouais. Et en tout cas, ma plus grande fierté, c'est que les gens me parlent toujours davantage, effectivement, de mes romans, de mes personnages, de ce qu'ils ont éprouvé en lisant, plutôt que de poser des questions sur ma vie.
Mais comment ça se passe? Comment un jour quelqu'un vous appelle pour dire « j'ai envie d'adapter votre roman en coréen » Enfin, concrètement,
s'appelle non, voilà, lorsque le roman sort, voilà, vous avez des éditeurs étrangers, effectivement, qui lisent, qui regardent un petit peu ce qui se passe en France et où voilà, vous avez des offres. Mais la Corée, effectivement, c'est une belle histoire qui continue et avec effectivement un lectorat là-bas très très jeune parce qu'en fait, une fois que les gens sont sur le marché du travail, ils travaillent généralement beaucoup, 70 heures par semaine, et donc ils n'ont plus le temps de lire. Donc le moment privilégié.
Ah oui, c'est la fin de l'adolescence, voilà, et l'entrée dans la vie adulte.
C'est ça, c'est ça.
Mais alors vous parliez de la Saint-Valentin. Ouais. Dans vos romans, il y a quasiment tout le temps une part de romance. Hein,
romance, j'aime pas trop. Il y a des sentiments.
Des sentiments, ouais, voilà, ouais. On va dire des sentiments. Est-ce que vous vous interdisez d'écrire une histoire d'amour parce que vous savez qu'on vous attend plutôt sur un thriller ou sur un polar en tout cas, ou c'est parce que c'est pas ce qui vous branche le plus?
Mais je pense que aux motivations, enfin à la source effectivement des actions des héros, mais c'est pareil pour nous. Christian Bobin avait cette belle phrase, il dit « c'est toujours de l'amour que nous souffrons, même quand nous croyons ne souffrir de rien ». Et je pense qu'à la source de nos motivations, il y a toujours un besoin d'amour, un manque d'amour, un acte qu'on fait. Alors, l'amour au sens large, hein, l'amour au sein du couple, l'amour oui, par rapport à vos enfants, vos grands-parents, vos parents. Donc il y a toujours, effectivement, dans mes romans... à la source de ça, du sentiment, oui, mais au sens noble.
Oui.
Est-ce que vous vous détachez facilement de vos personnages quand vous avez terminé un roman, vous faites un deuil et vous repartez sur tout à fait autre chose.
Ça doit être terriblement difficile.
C'est très très dur. Non, parce que Romain Duris, là, sur le tournage de Et après, me disait, enfin, je lui posais la question, il disait, il y a quand même un moment, 2 mois, 3 mois, un sas de décompression. Ouais. Oui, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien repartir très vite sur un autre roman, parce que sinon, voilà, vous m'insérez encore avec vos personnages. Et il y a une tristesse, ouais, bien sûr, de les abandonner.
Vous n'avez pas envie d'en faire revivre de temps en temps?
Ça m'est arrivé quelques fois. On recroise dans des romans des personnages qui étaient les héros de romans précédents. Mais c'est comme un petit peu dans la vie. C'est-à-dire, on est les héros de notre propre vie, mais on est des personnages secondaires ou des figurants de la vie des autres.
Et alors, Lise, vous posez la question sur l'adaptation en coréen. Est-ce que vous avez été appelée par des plateformes de type Netflix ou Amazon pour écrire des séries ou adapter vos romans en série?
Oui, ça arrive de plus en plus souvent parce qu'il y a de plus en plus de canaux, effectivement, de diffusion. L'idée, c'est dire oui si on a l'impression que au bout du compte, il y aura une série qu'on aurait soi-même envie de regarder. Et donc là, actuellement, il y a, j'espère, une belle adaptation qui se profile, qui est l'adaptation de La jeune fille et la nuit, qui sera tournée sans doute en anglais, en tout cas, voilà, qui est en cours d'écriture.
Pour une plateforme
Un 6x52. France Télévisions devrait être le diffuseur en France, mais après, à l'étranger, ça peut être...
J'ai cru comprendre que dans vos séries de référence, il y avait ça.
Oui.
C'est générationnel.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ça, quatrième dimension.
Imaginez, enfin, le nombre d'idées qu'il y avait dans ce type de série. Et ça, c'est une série qui est vraiment liée aux années de formation. C'est-à-dire une série qu'on regardait
oui.
quand on était petit.
On avait voilà, 10 ans, voilà. 10 ans, ouais, c'est ça.
Et qui a, oui, qui a vraiment marqué, bouleversé même mon imaginaire. Et c'est clair que ça a influencé surtout mes premiers livres où il y avait ce mélange de surnaturel.
Ça faisait peur cette série, franchement.
Absolument. Non, il y avait voilà. C'était en tout cas ça a ébranlé nos certitudes. Et ça reste effectivement quelque chose d'assez inoubliable.
Olivier Pouls était trop vieux pour la regarder et Élise Pressac trop jeune. Voilà. Vous voyez, c'est une question générationnelle.
C'est ça.
Voilà, c'était en noir et blanc. Pourtant, vous voyez, Olivier, vous auriez pu la regarder. Hein.
Ouais, mais j'ai tous les DVD à la maison.
Ce soir, je vous conseille de regarder, c'est sur France 2, à 21h, un excellent documentaire sur la mission Apollo 11. C'était il y a 50 ans. Hein. Le film revient avec précision sur une semaine entière de mission. Les premiers pas sur la Lune, évidemment, c'est extrêmement bien écrit. Il y a une sorte de suspense, sincèrement, qui vous maintient devant l'écran jusqu'au bout, même si on connaît la fin,
ah bah oui,
évidemment.
Fin, hein,
voilà.
Ils y vont.
Ils vont, mais est-ce qu'ils reviennent ? Eh bien, je vous assure que vous restez vraiment jusqu'au bout des 2 heures de documentaire pour comprendre tout ce qui s'est passé. Je vous propose un extrait au moment où le module lunaire redécolle de la Lune avec à son bord Armstrong et Aldrin.
Tout se passe bien. C'est une ascension très tranquille. Simplement un peu de ballottement avant l'arrière. Eagle est de retour en orbite. Nous avons quitté la base de la tranquillité. Et nous avons laissé derrière nous un écusson d'Apollo 11 et une branche d'olivier. Eagle, ici Houston, bien reçu.
J'adore ce petit détail de la branche d'olivier, oui. La branche d'olivier qui est restée sur la Lune, comme ça, c'est un des documentaires, alors parmi tant d'autres, hein, que vous allez pouvoir voir au cours de ces prochains jours qui reviennent sur cet événement auquel ont assisté des téléspectateurs du monde entier. C'est à voir sur France 2 dès 21h avec des archives sonores, notamment totalement inédites. Est-ce que la conquête spatiale vous fascine, Guillaume Musso ?
Honnêtement, non. Non. C'est assez extérieur ouais. à moi. Je serais incapable d'écrire un livre là-dessus.
Qu'est-ce qui vous fait rêver ?
Et moi, ce qui me fait rêver, c'est des choses très simples. Je veux dire, c'est le sourire de mon fils le matin. C'est assez mon champ de rêve et d'émerveillement est assez dans le domaine de l'intime, en fait.
Oui, vous disiez dans une interview, je rêve pas d'avoir une île aux Bahamas avec une magnifique villa de 1000 mètres carrés, ça ne m'intéresse pas.
Non.
Bah parce moi, je veux
que...
bien.
Ouais, mais... non, mais parce que finalement, voilà, vous vous rendez compte que voilà, les choses qui ont de la valeur n'ont pas de prix et que voilà, les choses qui ont de la valeur, c'est les choses universelles, voilà, liées à votre famille, à vos enfants, à l'amour des proches.
Vous avez été enseignant.
Ouais,
vous êtes écrivain, ouais. Vous êtes écrivain aujourd'hui. Mmh. D'ailleurs, est-ce que vous mettez ça sur vos papiers administratifs quand on vous demande votre profession ?
Ouais,
vous écrivez écrivain ?
Écrivain, ouais.
Ouais, ça va faire bizarre.
Romancier, en fait.
Romancier, ouais. Ah oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre métier que vous auriez aimé faire ?
Médecin, bien sûr, oui.
Ah
pour
oui.
Le,
bien
le
sûr,
rapport.
C'est marrant. Bien sûr,
c'est
bien sûr.
Non, mais c'est parce que non, j'ai vraiment hésité au moment de l'orientation, voilà, après bac. Voilà, j'étais vraiment pas loin de m'inscrire en fac de médecine et
l'économie vous a rattrapé.
Oui, parce que c'était voilà, je sais pas, c'est ces moments, ces nœuds un petit peu dans la vie où vous savez pas très bien pourquoi. Voilà, il y a un sixième sens qui vous dit faut aller là, mais donc oui, pour le rapport aux autres et parce qu'on vit quand même dans une époque où je trouve que la médecine est de plus en plus déshumanisée et il faut réinjecter de l'humain. Par rapport à ça, par rapport à la médecine, par rapport à la fin de vie.
À quel moment de votre carrière vous avez compris que ça y était, que vous étiez vraiment devenu romancier, que ça durerait longtemps ?
Jamais, justement.
Toujours non, parce pas que, encore aujourd'hui.
Non, et parce que voilà, c'est...
Non, mais vous êtes très bankable.
Oui, mais
c'est
voilà, on n'est jamais... Vous savez, on est toujours dans quelque chose d'incertain. Là, dans le roman, je dis, voilà, je cite une phrase, on dit le métier a... À côté du métier d'écrivain, le métier de jockey paraît stable. Et oui, on est toujours dans l'instabilité. Vous ne savez jamais si vous allez pouvoir écrire le livre qui ouais. suit. Chaque fois, ouais, vous vous retrouvez pieds nus devant l'Himalaya à chaque nouveau roman. Et,
Et c'est bien parce que c'est ce qui donne, c'est cette excitation, cette incertitude-là qui donne le sel de ce métier-là, mais qui en donne aussi le stress, ouais.
Merci beaucoup Guillaume Busseau. Avant de vous présenter la nouvelle recrue du club de l'été, on va faire une petite pause et on se retrouve avec un humoriste, il s'appelle Ben H. Il va venir nous raconter son week-end, mais j'ai comme l'impression que le garçon est un peu mythomane. À suivre. D'accord. Sur Europe 1.
Le club de l'été, deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
C'est vrai, ça, deux heures de détente ensoleillée. Il est 9h51 sur Europe 1 et jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été avec notre invité VIP, l'écrivain Guillaume Musso. Guillaume, Olivier Poulcelis-Pressac, je vous présente un petit jeune. Il s'appelle Ben H, il est humoriste, il dit n'importe quoi. Et il nous rejoint cet été pour nous narrer ses vacances avec des célébrités.
Ouais.
C'est un peu la carte postale mythomane de Ben H. Bonjour Ben H.
Bonjour Eva Rock, bonjour le club, bonjour la France, bonjour monsieur Musso. Très content d'être avec vous cet été, content vraiment. Hein, ça pourquoi j'irais lire le dernier Guillaume Musso au soleil sur une plage de sable fin quand je peux rester là enfermé dans un studio de radio à Paris. Ah, je m'y suis vu depuis des semaines dans ce studio, l'air faussement assuré entre vous Eva Rock et vous Lise Pressac, toutes deux immédiatement tombées sous le charme du jeune chroniqueur que je suis. Ah bon, et puis dans mon rêve il y avait aussi Olivier Pouls hein, qui nous faisait bouffer un peu plus
toujours.
Loin. Et maintenant je suis là en vrai, je suis ravi, mais je dois reconnaître qu'il y a quand même un tout petit truc qui me gêne Eva.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous gêne?
Vous me présentez comme mythomane alors que moi, si j'ai une légère tendance à la fabulation, c'est juste pour vous aider à vous évader le temps d'un papier, vous faire juste un peu rêver aux côtés des grands de ce monde. Tenez par exemple, en parlant de rêve et d'évasion, sachez que pas plus tard que le week-end dernier, j'étais dans un camping naturiste sous le soleil du Cap d'Agde.
Ouais, alors là j'ai un gros doute sur le fait que vous allez pouvoir nous faire rêver avec le Cap d'Agde.
Eh ben attendez, c'est pas fini, un camping naturiste au Cap d'Agde avec Christophe Castaner.
Ouais.
Eh ben je vous avais promis du voyage, bouclez vos ceintures, là, les simples pour le rêve et la féerie. Christophe Castaner au Cap d'Agde, hein, ça fait envie ma petite bande-annonce de camping 4. Alors je l'ai croisé complètement par hasard sur le petit marché en bord de mer.
J'ai
là.
Peur.
Il sortait d'un, il sortait d'un after, il allait enchaîner sur l'apéro. Là, le bazar ministériel m'a sauté aux yeux. C'est là que je me suis dit, c'est rigolo. Au ministère de l'Intérieur, on préfère les avoir à l'extérieur. Alors j'ai tout de suite, vu que c'était un habitué des lieux, le ministre, on reconnaît un vrai naturiste à sa dextérité chez le primeur. Les anciens vous le diront, si tu arrives à te saisir des kiwis avec les mains sans tâter de la tomate les couilles, c'est que tu as un peu d'expérience dans la balade. Je peux vous dire qu'il n'était pas au mieux. Hein, un peu à cran, besoin de vacances, notre ministre. C'est vrai que l'année était compliquée, c'est vous dire si les gilets jaunes l'ont profondément marqué. Il est passé devant un étalage de citrons à cause de la couleur, il s'est mis à pleurer en position fœtale sur le pavé. Le service d'ordre a dû intervenir, la tire de flashball sur cible, ils ont vidé les chargeurs sur l'étal de fruits, je vous le dis, fallait aimer le pulco. Et alors qu'on quittait le marché, nous arrivons sur une place où quelques jeunes formaient un rassemblement pacifiste contre le dérèglement climatique. Ils étaient pas bien méchants avec leur poncho à reprendre des chansons de Zaz à la flûte. Mais pour Christophe, c'était la goutte de trop, le mec est parti en burn-out. Le tout, les burn-out.
Je peux vous dire
que 10 minutes plus tard, les jeunes sauveurs de panda, ils avaient appris à boire le pulco par les yeux et leur flûte, ils n'étaient pas prêts de ressouffler dedans. Et c'est en vous disant ça que je réalise là, que je n'ai pas franchement tenu ma promesse d'évasion avec mon papier.
Non,
c'est vrai qu'il t'a fabulé, qu'il t'a raconté n'importe quoi. Quelle étrange idée de partir sur Castaner à poil sur un marché.
Pourquoi?
Alors, promis, je peux pas m'expliquer, il y a peut-être une thérapie à commencer maintenant. Promis, la prochaine fois, je vous ferai rêver, je partirai au moins aux Maldives et avec Beyoncé.
Mais c'est carrément mieux, les Maldives avec Beyoncé. Merci Ben H.
Les
Maldives, Beyoncé, ça fait rêver. Mettre un peu de musique, tout ça. Vous allez vous prendre un contrôle fiscal, vous allez comprendre là, votre douleur.
Ça se sent un peu là.
Castaner, vous attaquez gros quoi.
Ouais, il aime bien faire le marché, moi j'aime bien un petit commerce de proximité comme
d'accord,
ça.
D'accord, voilà. Vous revenez dans quelques jours.
Avec grand plaisir.
Après-demain, je sais pas, on ira aux Maldives avec Beyoncé.
On ira voyager.
Ou à Antibes avec Eva Rock, par exemple. Ça fait rêver.
Non. C'est-à-dire qu'après la carte postale Cap d'Agde, tout d'un coup, j'ai des visions qui me disent que faut pas aller au marché d'Antibes avec moi. Je suis en train d'imaginer n'importe. Bon, enfin, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup, Ben H. Merci. Restez avec nous. On finit cette séquence. Guillaume Musso, vous avez grandi auprès de votre maman qui dirige la bibliothèque d'Antibes, où il y a un supermarché, mais on est habillé
céréales.
Est-ce que le goût de la lecture pour vous est nécessairement une affaire d'éducation?
Ça l'a été. Pour moi, mais je pense qu'en fait, à un moment, il faut croiser des personnes qui vous donnent envie de lire, mais de façon positive. C'est vraiment, et ça, voilà, ma mère a joué ce rôle en mettant toujours en avant le côté plaisir de la culture. Certes, la culture, c'est une arme, c'est lié aux études, mais c'est aussi
quelque chose qui vous donne du plaisir dans la vie.
Mais l'éducation nationale ne vous donne pas forcément envie, parce que quand on se retrouve avec
je sais bien.
Une liste de bouquins insupportables à lire en première ou en terminale.
Moi, c'est aussi un professeur de français qui, à la fois, m'a fait lire Des souris et des hommes de Steinbeck et m'a fait écrire ma première nouvelle et donc m'a mis le pied à l'étrier. Donc, il faut aussi faire confiance à certains professeurs.
On a posé la question aux auditeurs ce matin quel livre ils étaient en train de lire actuellement. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui profitent de cet été pour se remettre à lire. Il y avait un récent sondage qui disait qu'il y avait à peu près 38% des Français qui disaient lire au moins 2 livres pendant l'été. Alors on leur a posé la question. Inma nous a raconté qu'elle lisait Le vieil homme et la mère d'Hemingway. C'est vrai que c'est aussi propice l'été à relire des classiques. Il y a Marc qui nous dit il lit le Je suis le carnet de Dora Maar de Brigitte Benkemoun, qui est passionnant et incroyable comme histoire. Benkemoun était venue en parler au micro. Comment l'achat d'un carnet sur Internet peut devenir un livre enquête sur Dora Maar, la muse de Picasso. Et il y a chez Dupont, tout est bon, c'est l'alias de la personne, c'est son pseudo, qui nous dit La vie secrète des écrivains.
C'est pas mal ça aussi.
C'est pas mal comme petit livre chez Calman Levy. Enfin, petit livre. Attendez, j'ai pas regardé le nombre de pages. Guillaume Musso, 347 pages. Il est trop lourd pour vous savez, sur le...
Sur le matelas.
Les tablettes de lecture.
Et les tablettes de lecture. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, les tablettes de lecture?
Mais c'est complémentaire. Ouais. Je veux dire, moi je
vous lisez sur une tablette ou pas?
Supports, c'est vrai. Ça m'arrive.
Et les livres audio?
Oui,
j'ai Audible, mais parce qu'Audible, c'est un...
de mal. Mais par contre, je supervise vraiment mes romans, et le roman là, vient de sortir, lu par Rémi Bichet, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières années pour vraiment avoir un côté très immersif dans le côté audio.
C'est vous qui l'avez choisi, le comédien, ou on vous en a proposé plusieurs?
On m'en a proposé plusieurs, et c'est le troisième qu'il fait pour moi, et on essaye de le booker longtemps à l'avance, parce que je l'aime vraiment beaucoup.
C'est rare que les auteurs s'impliquent autant dans les livres audio.
Parce que c'est assez essentiel de voir ces personnages quand même incarnés, et donc que ça soit assez juste. Et je lui ai parlé, il m'a proposé des choses assez différentes, et comme il interprète plusieurs personnages, et ça sonne vraiment bien, vraiment bien.
Ben voilà, c'est sur Audible.
Oui, c'est sur Audiolib.
Audiolib, exactement. Merci beaucoup. Ça s'appelle La vie secrète des écrivains, c'est chez Calman Levy. Après avoir partagé ses nourritures terrestres, ou pas d'ailleurs, merci Ben H, je vous propose, Guillaume Musso, de partir dans votre ville natale, et sans doute la ville que j'aime le plus dans le sud de la France. Direction Antibes, il sera question de pisse à la dière. Il est toujours question de pisse à la dière. A tout de suite sur Europe 1. Il est 10h, vous êtes sur Europe 1, on fait un point sur l'actualité avec vous, Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Eva, bonjour à tous. Les dernières copies rendues hier et les résultats définitifs du bac dévoilés ce matin. Tous les élèves seront fixés à 10h, c'est ce qu'a dit ce matin sur Europe 1 le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Sarah attendait justement d'être fixée, et cet élève du lycée Le Corbusier d'Aubervilliers vient d'obtenir son résultat.
Quand je suis arrivée dans la file, ils n'ont pas trouvé mon relevé de notes dans le bac qu'ils avaient. Il y a une pièce à côté, en fait, c'est là qu'il y a la pile de ceux qui passent pas au rattrapage. De là, il a regardé et en fait, il a constaté que finalement, j'avais mon bac, en fait. Donc du coup, j'ai pu repartir sans passer au rattrapage. Parce que du coup, sur mon contrôle continu en SES, j'avais 9 et là, j'ai eu 14. Donc il y a vraiment une très grosse différence, et ça a vraiment beaucoup, beaucoup joué du coup. Ça fait du bien d'avoir ce poids en moins, donc c'est vraiment le soulagement. Donc j'ai appelé mes parents, ils sont super contents, et voilà. Je vais rentrer, et puis je pense que ma mère, elle m'a préparé un petit truc. Voilà quoi.
Le petit cadeau, la petite récompense du bac pour Sarah, désormais bachelière, donc au micro européen de Claudia Bertram. Eux n'ont pas été reçus. Deux élèves de 18 et 19 ans d'un lycée d'Athis-Mons dans l'Essonne s'en sont pris à leur proviseur, le frappant plusieurs fois au visage. Information européen, déjà connue de la police, ils ont été interpellés. 11 ans après s'être vu octroyer plus de 400 millions d'euros, Bernard Tapie saura aujourd'hui s'il est condamné dans l'affaire de l'arbitrage qui a mis un terme à son litige avec le Crédit Lyonnais. 50 prisons fermes ont été requis. Face au changement climatique, explique « La France va devoir s'adapter, et notamment en matière d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Alors que les intempéries se multiplient ces dernières semaines, grêle, canicule, orage, le Sénat dévoile aujourd'hui un rapport qui pointe la lenteur du système actuel d'indemnisation pour Europe 1, lors d'Autriche.
Le système d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles n'a pas évolué depuis presque 40 ans. Il est caduc, explique ce rapport, surtout dans un contexte où les épisodes d'inondations, de tempêtes, de sécheresses sont plus nombreux et plus intenses. Face à la sécheresse, par exemple, dans des centaines de maisons partout en France, les sénateurs ont constaté qu'il y avait des fissures sur les murs. Les habitants à l'intérieur sentent même leurs maisons craquer et la procédure d'indemnisation des sinistrés est longue et souvent pas assez juste, explique la sénatrice de Charente, Nicole Bonnefoy.
Ces sinistrés de la sécheresse, parfois ils sont reconnus, d'autres fois ils ne sont pas reconnus, à quelques kilomètres d'une commune à l'autre, avec pour autant un aléa qui est de même intensité. Donc les sinistrés ne comprennent pas, elle est illisible. Tout cela est très compliqué sur le plan administratif, compliqué sur le plan humain, puisque la réponse qui a apportée n'a pas de transparence.
Ce rapport met aussi en avant la situation des agriculteurs qui sont de plus en plus nombreux à faire de la polyculture. Ils peuvent être touchés par plusieurs aléas climatiques en même temps et la procédure d'indemnisation n'est pas adaptée à la situation actuelle.
Les explications de l'Ordre d'Autriche pour Europe 1. Des renforts et de nouveaux espaces de vente. La SNCF répond aux critiques sur l'allongement des files d'attente aux guichets en gare. Près de 200 personnes supplémentaires mobilisées. Et avant la fin de l'été, des billets en vente chez les buralistes de 5 régions, Bourgogne, Franche-Comté, Grand Est, Normandie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'abord un test qui devrait bénéficier à tous pour Europe 1. Aurélien Fleureau.
Une tablette, une toute petite imprimante pour sortir votre billet de train au format facturette de carte bancaire. L'opération doit être simple et rapide, promet Guillaume Pépi, président de la SNCF.
Simplement, la petite différence qui fait le billet, c'est qu'il y a un code à deux dimensions qui va être scanné soit par le contrôleur, soit par la porte d'embarquement. Pas besoin d'aller retirer le billet à un automate. Et donc, c'est un système très simple et pour le buraliste et pour le voyageur qui voit son billet sortir en quelques secondes.
Pas d'échange ni de remboursement, seulement de la vente. Des billets de TER, mais aussi de TGV. Pour Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, ce partenariat est une aubaine pour répondre notamment à la baisse des ventes de tabac.
Tout l'objet du plan de transformation que nous conduisons depuis 18 mois, c'est d'amener plus de services. Des points de contact ont déjà été identifiés par les équipes de TER SNCF et nous allons pouvoir rapidement maintenant déployer ces premières expérimentations dans notre réseau.
Les 24 500 bureaux de tabac ne vendront pas tous des billets de train, mais les premiers le feront dès la fin du mois de juillet avant une montée en puissance prévue pour 2020.
Les explications d'Aurélien Fleureau pour Europe 1. Un peu plus de 213 km au programme entre Reims et Nancy, la quatrième étape du Tour de France avec évidemment Julien Alaphilippe en jaune. Et puis la rupture en passe d'être consommée entre le PSG et Neymar, le Brésilien qui ne s'est pas présenté hier à la reprise de l'entraînement. Il peut partir, dit aujourd'hui le directeur sportif du club Leonardo dans Le Parisien. Aujourd'hui en France, le message est clair.
Oui, j'ai bien l'impression. Merci beaucoup Marion Calais.
Vous restez vous.
Oui, je reste. Oui. Prochain point sur l'actualité à 10h58.
Et voilà.
Levez le pied.
C'est l'été sur Europe 1. Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été.
C'est la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager des idées de balade à travers toute la France, des astuces culinaires pour épater les copains. C'est l'écrivain Guillaume Musso qui est avec nous depuis 9h ce matin. N'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1. Ce club de l'été, on vous le rappelle, hein, c'est votre club. L'Espressa qu'on s'envole pour Antibes ce matin, mais pour quel site en particulier?
On va dans un jardin botanique, celui de la Villa Turée, que vous connaissez peut-être, Eva.
Exactement.
C'est l'INRA qui s'en occupe.
Ouais. Et lieu magnifique. Olivier, ne dites rien sur les spécialités du Sud.
Rien.
Vous n'avez aucune crédibilité face à Guillaume Musso et à moi. Je suis désolée. En revanche, quel est le thème de votre vrai faux du jour?
Eh bien, on le rappelle, on a parlé hier du barbecue longuement. Et donc, le barbecue, ce fameux barbecue qui est émerveille tout notre été, mais d'où vient-il? Qui l'a inventé? Sont-ce les Mongols?
Mais vous allez nous raconter tout ça. Nous sommes le mardi 9 juillet et je vous propose de remonter le temps en musique. Guillaume Musso, est-ce que vous avez une idée de la chanson qu'on écoutait à l'été 74, c'est-à-dire l'année de votre naissance?
Pas du tout, non.
C'était ouais. Ça.
Mal aimé, je suis le mal aimé.
Je
J'avoue que cette chanson a été triste de Claude François pour un été. On a eu la Macarena et on a eu Claude François en 74 avec le
Mal-Aimé. C'est mieux la Macarena pour l'été quand
oui,
même.
Ou Alexandrie Alexandra, je sais pas. Vous en souvenez de cette chanson? Vous l'avez découverte après.
Oui, bien sûr. Ouais.
Vous aimez bien Claude François?
Pas vraiment.
Kate Jarrett, ouais. C'est mieux. Vous avez raison. Alors, vous n'allez pas être déçu par la suite. En 1984, vous avez 10 ans quand vous découvrez le monde merveilleux de la littérature. On est d'accord jusque-là.
C'est ça. Ouais.
Et alors, on passe en boucle à la radio cette chanson. Susanna. J'avais l'impression d'être beaucoup plus grande, moi, quand j'ai écouté Susanna.
Ouais.
Vous n'étiez pas encore née,
l'Express
Sac. Vous vous en souvenez, Olivier Pouls, ou
oui,
pas?
Oui, bien sûr. Moi, j'avais déjà 32 ans.
Oui, et vous avez dragué plein de filles en écoutant cette musique.
Exactement.
20 ans plus tard, en 2004, c'est la publication de votre roman Et après, Guillaume Musso, qui a marqué quand même un tournant dans votre carrière. Et alors, sur les ondes, un groupe a un succès phénoménal.
Alors ça, je m'en souviens très bien. Ah. Je sais plus ce qu'ils étaient. Est-ce qu'ils étaient roumains ou...
Je crois roumains, mais ouais, je peux me tromper.
Chaque année, on se trompe, les amis. Parce que déjà, l'an dernier, on s'est trompé.
On s'est déjà posé la question.
Moi, j'avais dit Albanie, mais je suis pas sûre. C'est le groupe Ozone. Je ne vous donnerai pas le nom de la chanson que je n'arrive jamais à prononcer.
Dragostadintei.
Bien joué.
Oui, c'est vrai.
Je m'en souviens.
Ah là là, ils sont moldaves, me dit-on dans l'oreillette.
Ah,
ils sont moldaves.
On avait déjà fait l'erreur l'année dernière.
On n'a pas beaucoup entendu parler d'eux par la suite.
Eh bien alors, c'est ce que j'allais vous dire. Je crois qu'ils auraient adoré avoir le même succès que Guillaume Musso, mais on n'a plus vraiment de nouvelles.
Ils sont moldaves, ils chantent en roumain. Voilà pourquoi on fait la confusion.
Bien joué les amis. Alors voilà. Vous aviez un bon point sur tout le reste.
C'est un concept quand même. Hein.
Oui, c'est un concept.
C'est Guillaume pour passer Musso. À l'Eurovision.
Guillaume Musso, est-ce que vous vous souvenez du premier chèque très important gagné grâce aux ventes de votre livre? Si, c'était un chèque, parce que moi, je matérialise ça dans mon imaginaire en forme de chèque.
Un virement. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, non, ça m'a permis d'acheter mon premier appartement.
Mais vous avez été impressionné? Vous vous souvenez d'avoir vu la somme sur votre compte en vous disant « Waouh !»
Oui, enfin...
Je
me suis dit « Oui, voilà, je vais pouvoir devenir... propriétaire de mon appartement. C'est plus en termes de qu'est-ce que ça permet de faire et quel degré de liberté ça permet de gagner que de voir simplement voilà, une somme en soi, ça ne veut rien dire.
Vous n'êtes pas un flambeur?
Non. Non.
Je vais pas dire le contraire. Le plus grand luxe que vous pouvez vous offrir, mais alors luxe au sens général, pas forcément matériel.
C'est vraiment comment avoir davantage de liberté, de flexibilité, de faire ce qu'on veut au moment où on le veut, de pas regarder un prix, plus que des objets ou un côté très 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 matériel. Je me dis toujours voilà, en quoi ça me fait gagner de la liberté, de la tranquillité d'esprit.
Mais moi, je vous propose de partir vers le sud, vers la Méditerranée, où il n'y a pas besoin d'argent pour observer la mer et profiter du soleil. Quand je vous dis Antibes, la première odeur qui revient pour vous?
Première odeur, oui, c'est je ne sais pas, peut-être l'eucalyptus, les pins. Ouais. En fait, je suis davantage lié au son. Voilà,
oui,
c'est
et alors, quel est le son qui revient?
Forcément, le ressac, les vagues, oui. Et première image, c'est les remparts et c'est tous les matins je sur mon 103 Peugeot de l'époque, ma mobylette, voilà, j'allais au lycée, je passais toujours effectivement par les remparts dans la maison à la fois devant le musée Picasso et devant cette maison d'où s'est suicidé Nicolas de Staël et avec ce paysage incroyable, vous avez la mer, vous avez les montagnes derrière et ça effectivement c'est pour moi voilà, c'est la première image d'Antibes et c'est voilà ce fin des années 80, début des années 90.
Et ça n'a pas bougé et c'est absolument magnifique. Allez visiter Antibes. Nous on part, direction le sud-est, on aurait adoré y être réellement, on va se contenter d'imaginer le bleu, la chaleur, les stridulations des cigales et le goût des farcis. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Nous sommes toujours en direct, il est 10h12 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité Guillaume Musso. Guillaume, je parlais du bleu, de la Méditerranée et de la chaleur. Je viens de recevoir un SMS de mon papa qui me dit « il fait gris ». Voilà, comme quoi vous avez qu'à être à Paris et vous verrez le soleil.
Laurent Cabrol l'a dit tout à l'heure,
Exactement. Enfin, avant de partir pour le sud, Lise va nous délivrer son journal de la culture et on commence, Lise, aujourd'hui par une grande première.
Oui, la restauration en direct sous les yeux des visiteurs d'un tableau de Rembrandt. Ça se passe au Rijksmuseum d'Amsterdam. Les restaurateurs ont commencé à travailler travaillé hier sur cette toile de 1642 intitulée La Ronde de Nuit. Alors, le tableau de 3,8 mètres de haut sur 4,5 de large représente les officiers et membres d'une milice bourgeoise d'Amsterdam. C'est une peinture qui, en 3 siècles et demi, a connu pas mal de bouleversements, une série de déménagements, des tentatives de restauration. Elle a même échappé aux nazis. Alors, la dernière restauration majeure de l'œuvre remonte à plus de 40 ans, après qu'un déséquilibré l'a tailladée à coups de couteau, c'était en 1975. Alors, depuis, le tableau s'est détérioré. Un halo blanc est apparu sur certaines parties, notamment justement autour de cette zone endommagée par les coups de couteau. La toile a été installée dans la galerie d'honneur du musée, dans un écrin de verre, dans lequel s'affairent 25 scientifiques qui vont donc devoir déterminer les meilleures techniques pour pouvoir restaurer ce tableau. Et le chantier pourrait durer plusieurs années.
Et donc, on peut les observer en train de faire la restauration de ce tableau.
Absolument génial. Oh,
génial. Alors, retour en France, cette fois-ci, pour une vente aux enchères de fourneaux et de grands crus.
Oui, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de ceux de Gérard Depardieu. La star vient de vendre son restaurant parisien, La Fontaine Gaillon. Il a décidé de mettre aux enchères tout ce qu'il y avait dedans. Donc, vaisselle, table, fauteuil et chaises en velours rouge, dessertes, lustres, nappes, du matériel de cuisine, des grands crus. En tout, 250 lots seront mis en vente jeudi. Voilà, oui. Côté cave, puisque c'est quand même ce qui intéresse Olivier Pouls. Des dizaines de châteaux Latour, Aubryon, Saint-Émilion, Côte-Rôti et Meursault, estimés jusqu'à 6000 euros la bouteille.
Alors, ouais, c'est pas pour tout le monde.
Non, c'est pas pour tout le monde. La vente aura lieu ce jeudi à 10h au restaurant même. C'est situé à deux pas de l'Opéra de Paris.
Sur une très jolie placette. Ça vous intéresse, Olivier Pouls?
Ah, mais puis même.
Mais rien que pour le spectacle, si vous avez
le spectacle, évidemment, les vins sont relativement chers. Mais vous savez, dans ces ventes aux enchères de restaurants, il y a toujours des pièces qui partent pour pas très cher et qui peuvent être très, très intéressantes à acquérir pour deux fois rien. Des jolis services, des couteaux. Mais même parfois des pièces plus grandes comme des cuisinières, des choses comme ça.
Je pense que jeudi à 10h, on aura perdu Olivier Pouls.
Vous êtes obligé de. Duplex de là-bas, si
oui, si vous voulez. On va envisager un duplex, c'est ça, bien sûr. Et pour terminer ce journal de la culture, Lise, vous nous emmenez à Arles.
Oui, pour la 24e édition du festival Les Suds qui a débuté hier, avec des concerts dans la cour de l'archevêché, sur la scène du théâtre antique et dans le parc des ateliers. C'est une ancienne friche industrielle réhabilitée. Et il y a des artistes venus du monde entier. Alors, ça va vous parler, Eva, ce soir, le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf qui a invité un brass band de 17 musiciens, rien que ça, à le rejoindre sur scène pour une grande fête gypsy. Demain soir, alors encore plus nombreux sur scène, place au mystère des voix bulgares. Vous aurez des grands yeux, mais ça avait bercé mon enfance. Moi, dans les années 90, on les avait beaucoup écoutés. Jeudi, vous pourrez aller applaudir Mélissa Lavo et Fatoumata Diawara. Mon âme décidément, programmation de choix avec Monsieur Bobby McFerrin.
Mais alors, c'est très, très éclectique comme
très, très éclectique. Voilà, l'idée, c'est de faire venir vraiment des artistes du monde entier. Et en journée, il y a également pas mal d'événements gratuits. Il y a des scènes en ville, des apéros découvertes et des siestes musicales. Les Suds à Arles, c'est jusqu'à dimanche prochain.
L'idée de la sieste musicale.
Je savais que ça vous plairait.
Après l'apéro
découverte. Et à Antibes-Jean-Lépin, il y a le festival Jazz à Juin auquel vous avez déjà assisté plusieurs fois, j'imagine, Guillaume Musso.
Oui, oui, assez.
Le souvenir mémorable.
Jarrett et Diana Krall.
Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qui dit vacances, pour ceux qui sont en vacances, pour les autres, vous nous écoutez, et puis ça fait un petit air de vacances, hein. Dit voyage, Julien Doré fait un retour, un aller-retour, Paris-Séchelles, et c'est sur Europe 1.
Hein. 9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1,
Eva Rock.
De sourire dehors. À Angoulême, un Jaspline Melchior, Paris Seychelles, découvrir ton corps depuis la scène du sombre décor. Lucrèce et Rennes, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas. Le soleil s'endort sur ses chelles, le sable et l'aurore, fleur de sel. Attends-moi, je sors de l'île aux cerfs, l'orage est de l'or pour se perdre. I need you so, I won't let you go. Le désir encore pour l'hiver, un chaos d'efforts sur Saint-Hilaire. On s'était dit des choses
viendra pas. Le temps que l'on se pose sur nos lauriers mayas, on s'était dit des choses. Le temps que l'eau se pose sur nos ronces lilas.
C'était déjà en 2013 et on ne s'en lasse pas. Julien Doré sur Europe 1. Dans un instant, le club de l'été se délocalise sur la Côte d'Azur, direction Antibes Jean Lépin. Il est 10h21 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club et vous êtes les bienvenus tous les matins de 9h à 11h. On attend d'ailleurs vos réactions, hein, mais aussi vos questions à notre invité, à Olivier Pouls ou Lise Pressac. C'est sur Twitter que ça se passe avec le hashtag Europe 1. Et notre invité, justement, c'est Guillaume Musso. Guillaume Musso, je vous propose de voyager jusqu'à Antibes. Donc, quelle est donc la première image qui apparaît dans votre esprit quand vous pensez à cette ville en dehors des remparts? Est-ce qu'il y a un autre site qui vous paraît incroyable?
Moi, j'aime bien la vue du fort carré.
Et à l'entrée de la
ville.
Oui,
voilà, qu'on voit depuis le port, restauré par Vauban. Oui. Voilà,
est-ce qu'il y a une autre ville dans les environs qui vous procure autant d'émotions qu'Antibes?
Honnêtement, non. Alors, j'habite, moi, depuis 10 ans à Paris, mais un petit peu contraint et forcé. Mais quand je dis chez moi, je sais plus. C'est toujours
c'est Antibes.
Antibes, bien sûr.
Ah ouais.
Voilà.
Ouais. Bah moi aussi, alors que je suis niçoise, vous voyez comme quoi cette ville a un truc magique. Lise, on va visiter quel site précisément dans la ville magique?
On va chez vous, dans votre jardin peut-être, le jardin botanique de la Villa Turet. C'est un centre de recherche scientifique en fait consacré à la botanique et à l'acclimatation. Le lieu existe depuis 1857. La villa est aujourd'hui gérée par l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Et on est en ligne ce matin avec Catherine Ducatillon, qui est botaniste et ingénieure de recherche à l'INRA. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, expliquez-nous l'histoire de ce lieu. La villa porte le nom de Gustave Turet, qui était un algologue et botaniste du 19e siècle.
Oui, oui, c'est un peu un testament, c'est-à-dire que le nom est une obligation légale, puisque le jardin botanique a fait l'objet d'une donation à l'État français, c'est pourquoi aujourd'hui il a été confié en gestion à l'IMRA. Donc nous avons conservé le nom de son créateur, Gustave Turet. Et Gustave Turet était un grand scientifique, vous l'avez dit, il a fait des découvertes importantes sur les algues, hein, notamment la reproduction sexuée qu'il a mise en évidence. Mais pas seulement ça, et c'est un peu moins connu, parce que comme il a créé ce jardin pour son plaisir, mais aussi pour ses travaux de recherche, en fait c'était un laboratoire de recherche privé, en quelque sorte, hein, qui fonctionnait sur fonds privés, et il s'intéressait à de multiples choses, et notamment bien sûr tout ce qui concerne les plantes.
Un terrain de plusieurs hectares quand même, il faut imaginer.
Alors aujourd'hui... Oui, aujourd'hui, à l'époque, c'était 5 hectares. Donc aujourd'hui, le jardin botanique mesure 3 hectares et demi. Les collections de plantes sont réduites à 3 hectares et demi, sachant que l'hectare et demi manquant, en quelque sorte, était réservé plutôt aux expérimentations et aux aspects un petit peu à la pépinière, vous voyez, aux aspects nécessaires pour la vie quotidienne.
Alors combien d'arbres et d'arbustes on peut voir dans ce jardin?
Ouf, alors là
beaucoup, des milliers, des milliers
Voilà, beaucoup, disons que vous allez peut-être pouvoir voir, compter à peu près 2000 arbres et arbustes, mais ça correspond à un millier d'espèces différentes. Donc ces arbres et arbustes représentent des espèces, c'est des petits échantillons des espèces telles qu'elles sont sauvages dans la nature. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un jardin d'introduction et d'acclimatation. Donc ce qu'on ignore, c'est que depuis le 19e siècle, lorsque Gustave Turet s'est installé sur le cap d'Antibes, en fait il n'a cessé d'introduire des nouvelles espèces, des espèces exotiques en provenance du monde entier. Et donc, ce jardin a été en quelque sorte le réceptacle de ces travaux. Et une fois les plantes installées, eh bien, elles ont pu être valorisées progressivement par les différents directeurs qui s'en sont succédés, et puis par des échanges avec des collectionneurs, des amateurs, des pépiniéristes. Et ce qu'on ignore parfois, c'est que ce jardin, ces collections, ont contribué finalement à nourrir les plantations urbaines du littoral de la Côte d'Azur et ont contribué finalement à fabriquer ce paysage unique qu'on connaît aujourd'hui avec ses palmiers, ses eucalyptus, ses mimosas et toutes ces plantes exotiques dont on oublie qu'elles sont lointaines.
Catherine Ducatillon, quelle est la plante qui vous fascine le plus dans cet immense jardin? à titre personnel?
C'est difficile parce que le choix est extraordinaire. Et puis, parfois, ce qui nous fascine le plus, c'est la petite plante qu'on a introduit il y a 3 ou 4 ans et dont on attend justement qu'elle nous révèle un petit peu ses mystères. Mais peut-être pour davantage parler à vos auditeurs, peut-être qu'on peut signaler quelques arbres remarquables, puisque, au passage, nous avons bénéficié du label arbres remarquables pour l'ensemble de la collection. Et il y a notamment 2 arbres. Qui sont l'un à côté de l'autre, qui sont très opposés, très complémentaires. Donc vous avez un très grand eucalyptus qui s'appelle Eucalyptus dorigoensis, qui vient de la région des Blue Mountains, pas très loin de Sydney, en Australie, et qui est un arbre magique. Il est immense, il fait 38 mètres de haut, il a un tronc tout blanc, immaculé. Et on le repère quand vous êtes dans la baie de Jean Lepin, quand vous faites du bateau, ou que vous nagez, et vous le repérez de très très loin. Vous dites, ah tiens, ça c'est le jardin naturel. Voilà, donc il y a ce très très grand eucalyptus magique au feuillage un petit peu transparent, puisque les eucalyptus ont souvent des feuilles qui pendent, donc ça rend la couronne un peu transparente. Et puis vous avez juste à côté un arbousier, donc pour vous c'est l'arbre à fraises, c'est un arbre qui est relativement commun dans notre végétation méditerranéenne, mais celui-ci a une particularité, c'est qu'il vient du bassin méditerranéen oriental, donc il vient plutôt de Crète, de Grèce, du Liban, et cet arbousier est énorme, il est très musculeux, il a un épiderme très doux, et il est d'un rouge vif, magnifique, qui contraste justement avec l'écorce blanche de l'eucalyptus dorigoensis à côté. Donc peut-être que c'est ceux-là qui sont un peu les arbres un peu fétiches de la vie naturée.
Ah, vous en parlez avec tellement de passion,
on a
envie de venir vous voir. En fait, on va vous appeler tous les jours et vous nous ferez une plante par jour, voilà. Catherine.
Ah, si vous voulez, mais peut-être que le mieux, ça serait de venir les voir. C'est facile en fait, parce que le jardin est ouvert de 8h à 18h en ce moment, tous les jours, et la visite individuelle est libre et gratuite. Donc vous voyez que c'est extrêmement facile de venir, sauf qu'il est fermé le samedi et le dimanche, parce que comme vous l'avez dit, c'est dirigé par l'INRA, l'Institut National de Recherche Économique.
C'est votre week-end.
Et donc nous on est là en fait surtout pour travailler au niveau scientifique et pas trop pour accueillir le public, même si nous avons des partenaires qui nous y aident.
Merci infiniment Catherine Ducatillon d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes botaniste et ingénieur de recherche à l'INRA. Toutes les infos sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Élise, vous postez tout ça évidemment sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier Pousse, nous allons parler gastronomie dans un instant. Vous nous offrirez en fin d'émission une recette à faire au barbecue.
Aujourd'hui, mon pote, c'est barbecue party.
Voilà. Avec Guillaume Husson, on va vous expliquer ce que c'est de la nourriture à Antibes. On se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct, pour quelques gourmandises. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 9h-11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du Europe 1 Club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Guillaume Musso, qui est notre invité. Est-ce que vous êtes du genre gourmand?
Bien sûr.
Et votre Madeleine de Proust?
Ma Madeleine de Proust,
attention à ce que vous allez dire.
Culinaire, elle est liée au sud de la France, elle est liée à Antibes, c'est la pissaladière.
Ah. D'accord. Voilà. Olivier Pouls,
J'adore la pissaladière. Mais quand on dit pissaladière, on pense forcément à un personnage
qu'on avait eu l'an dernier au téléphone.
Exactement, un invité qui nous avait tellement marqué qu'on s'est dit c'est pas possible de refaire le club de l'été cette année sans le rappeler. Alors c'est le boulanger d'Antibes.
Jean-Paul Vézianneau. Bonjour
Jean-Paul. Jean-Paul Vézianneau, il est avec nous. Allô?
Je vais lui en faire manger 2 à ton ami là.
Alors il faut Jean-Paul, il faut quand même que je vous dise.
Est-ce que vous avez été augmenté tous? Parce que je vais appeler votre patron.
C'est
la meilleure équipe. Hein.
Malheureusement, non. Mais Jean-Paul, je dois vous dire qu'à cause de vous, ou grâce à vous, je ne sais pas, l'année dernière, Evaroc a eu l'un des plus grands fous rires, de sa carrière.
C'est vrai.
Ah mais écoutez, je vais vous en donner un autre de fou rire. Vous m'avez appelé, il pleut.
Oui, il
paraît. Il pleut plus. Dès que les Parisiens vous appellent, il pleut. Il y a le tonnerre. Eva, elle est au top. Je l'ai connue toute petite. À l'époque, en Antibes, il n'y avait pas l'électricité.
On veut une anecdote.
Avec le père Amusso, on en rigole des fois.
C'est vrai.
Jean-Paul Vézianneau, plus sérieusement, quand on parle de gastronomie à Antibes, quels sont les plats emblématiques de cette ville, à part votre pissaladière?
Écoutez, vous savez, c'est pas qu'Antibes spécialement, c'est le sud.
Oui.
On emploie tous des bonnes huiles d'olive. Il y a la soca, le pain bagna, il y a la tourte aux blettes sucrée de nos amis niçois. Il y a plein de bonnes choses. Vous savez, nos anciens, les grands-parents de Guillaume, ils faisaient du bon parce qu'ils utilisaient de la bonne marchandise, la bonne des bons légumes qu'ils cultivaient dans le jardin. C'était des gens qui vivaient humblement, mais ce qu'ils avaient, c'était bon et c'était eux qui le faisaient surtout. Donc voilà, toutes ces choses-là, ces traditions, on les a gardées, on a un palais différent. Voilà, nous, là, on n'a pas peur d'en manger. Même si on embrasse une fille après, ça lui fait plaisir.
Bah, elle en a mangé aussi, alors.
Non, voilà, mais très bon.
Il y a aussi le pissala, alors, qui était une spécialité que déjà les Romains connaissaient, qui est une préparation à base d'alevins d'anchois. Ce sont des alevins qu'on ne pêche que pendant une toute petite période, c'est le mois d'avril et le mois de mai.
Vous l'utilisez, Jean-Paul, la pissala,
Ils sont macérés pendant une trentaine de jours et on en fait une espèce de sauce. Oui.
Arrêtez, vous n'allez pas donner la recette. En plus. Non, ça s'appelait les Romains, on faisait le Garonne, ça s'appelait. Et aujourd'hui, moi, pour plaisanter, parce que je suis un homme très sérieux, je dis que c'est le Viagra du vieil Antibes. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens mangent la pissaladière. Une sauce d'alevin que l'on met dedans, à l'intérieur, dans la pâte, enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut, et on la met dans la pissaladière. C'est quelque chose de très délicat, de très doux, et quand vous avez un morceau de pain, un peu d'huile d'olive et un peu de pissala dessus, vous vous régalez. Voilà.
On a déjà les saveurs dans la bouche, Jean-Paul. Jean-Paul, vous connaissez bien Guillaume Musso ?
Je l'ai vu naître, voilà.
Bonjour Jean-Paul.
J'ai connu ses grands-parents, ma famille a connu toute sa famille du côté de sa maman, de son papa. Ce sont des gens humbles, ce sont des gens travailleurs, ce sont des gens qui ont fait des sacrifices, comme tous les nôtres ont fait des sacrifices. Et quand je vois son frère Valentin, quand je vois Guillaume qui réussissent, ça me fait énormément plaisir parce que ça montre que quand on a un petit peu de talent et beaucoup de travail, parce qu'on imagine le travail que fait Guillaume quand il écrit, je veux dire, c'est un honneur qu'il soit antibois. Tant il aurait été d'une autre ville, on l'aurait adopté quand même.
Ah bon, d'accord, ça va.
Qualité antiboise. Voilà, c'est vraiment Guillaume, c'est quelqu'un de... j'espère que beaucoup de Français qui lisent ses œuvres, ses opus, et en France et dans le monde, auront la chance de connaître un jour Guillaume, parce que c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Lui, son épouse Ingrid et son petit Nathan et l'autre petit derrière.
T'es gentil. Voilà, c'est un honneur de l'écouter.
Merci.
Jean-Paul, est-ce que vous avez préparé la pissaladière pour ce midi ?
Écoutez, vous, faites attention, parce que les avions sont en 1h30.
Ouais.
Écoutez, je vous promets, mais si ça, il faudrait que vous organisiez un peu mieux. Hein.
Oui,
vous, par contre, vous n'allez pas être augmenté. Vous, je vous le dis, vous, l'augmentation, vous ne l'avez pas. Hein. Je vous promets que la prochaine fois que vous invitez Guillaume Musso, je monte exprès à mes frais, pas au nom d'Europe 1. Hein.
On n'a pas les moyens.
La petite salaire chaude, congelée, mais chaude, vous verrez.
Mais avec des olives dessus, on est d'accord.
Dans le midi, on est tous des grandes gueules, mais on tient notre parole. Je vous le promets.
Oui, bien sûr.
C'est moins 3-4 jours avant.
Oui, oui, je vous le confirme que vous êtes grande gueule, mais que vous respectez votre parole, parce que j'ai vu une plaque de pissaladière arriver dans l'hôtel où j'étais. Je pense que le monsieur à l'accueil de l'hôtel n'en est toujours pas revenu. Ça sentait l'anchois partout dans
Il sentit une autre... Mais oui, mais lui, c'est un étranger, il a senti cette odeur, il voulait appeler. Il n'a rien compris. Voilà. Quant à monsieur Musso, je lui dois au moins 150 kilos de pissaladière. Je lui dis, chaque fois que tu me mets dans ton livre, tu as ton point pissaladière. Mais je ne le vois pas souvent. Alors il faudrait que je mette plus d'olives pour que ça passe le poids.
Merci infiniment, Jean-Paul Viziano. C'est toujours un bonheur de vous entendre.
Merci, madame Evaroc.
Oui.
Et gardez votre charme. Et faites bien à boire à monsieur Musso, qui ne quitte pas la course.
Oui, votre boulangerie.
Guillaume, à très bientôt à Antibes.
À bientôt, merci.
Votre boulangerie, est-ce qu'elle chante ? Oui, est-ce qu'elle
chante ? Bonjour à votre patron. Hein.
Oui, on va lui dire.
Il signe les chèques à la fin du mois. Hein.
Votre boulangerie.
Il n'en mangera pas de pizza.
J'arriverai pas. Jean-Paul, votre boulangerie, est-ce qu'elle chante dans une des ruelles du vieil Antibes ? Ça mérite une pizza. Ça se mérite une pizza à dire de Jean-Paul Veziano. Il faut trouver la boutique.
Il n'y a pas d'adresse.
Voilà.
Quand ça sent mauvais, c'est chez moi.
D'accord. Voilà. Mais non, il faut demander quand vous êtes dans le vieil Antibes.
Dans la commune libre du Safranier.
Exactement. Commune libre du Safranier, où il y a souvent des fêtes. Allez-y, c'est absolument génial. Et puis vous, quelles sont les saveurs de votre enfance, de votre région natale ou de votre région d'adoption ? Eh bien, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Merci infiniment, Jean-Paul Viziano. Je sens qu'on va vous rappeler avant la fin de l'été. Olivier, il nous reste quelques secondes pour notre fact-checking culinaire. Non, on va le faire un petit peu après.
Bon,
allez, on le fera
l'heure.
Après.
Allez.
On le va faire tout à l'heure. Merci. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1. Eva Roque.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec les deux experts Olivier Poulcelis, Pressac, Guillaume Musso. Est-ce que tout va bien ?
Tout va très bien.
Vous avez
merci.
Envie de manger bah, oui. un petit bout de saladière. Oui, je suis voilà. désolée. Ouais, je n'en avais pas prévu. L'Espressac ici.
Le vin rosé qui va avec.
Et oui, qui va avec. Ouais. L'Espressac ici présente a toujours trois bons plans à nous délivrer. C'est-à-dire qu'il y a une thématique et trois lieux. Et aujourd'hui, on visite trois sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Direction le golfe de Porto en Corse. Pour commencer, on reste dans le sud.
Bah, on reste dans le sud, un peu plus au sud. Voilà, avec trois lieux pour le prix d'un. Les Calanques de Piana, le golfe de Girolata et la réserve de Scandola. Trois sites inscrits au patrimoine de l'UNESCO depuis 1983. Alors, la réserve fait partie du parc naturel régional de Corse. Elle se trouve sur la presqu'île de la Scandola. Vous y verrez des goélands, des cormorans, des aigles de mer survoler des eaux transparentes. Deuxième site, le golfe de Girolata, qui est une réplique du golfe de Porto, où le bleu de la mer rencontre le rouge c'est des magnifique. Falaises hautes de plus de 300 mètres. C'est vraiment sublime. Et il y a enfin les Calanques de Piana, toujours dans cette même zone du golfe de Porto. C'est sur la côte ouest. C'est à mi-chemin entre Ajaccio et Calvi. Il y a des grandes falaises de roches rouges qui ont été sculptées par l'érosion et alors auxquelles on accède par la route. C'est entre Porto et Piana. On se retrouve littéralement au milieu des Calanques, au cœur des Calanques. Et vous pourrez aussi y accéder par la mer. Plusieurs compagnies organisent des excursions en bateau, notamment au départ de Porto.
Alors, changement de région et d'ambiance, Lise, hein, vous nous emmenez dans des grottes.
Voilà, on va se rafraîchir un peu. Bah je vous propose de découvrir.
Fait très chaud, c'est bien aussi.
C'est pas mal, les sites historiques et les grottes ornées de la vallée de la Vézère, c'est en Dordogne. Alors, elles sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. C'est un site qui comporte 147 gisements qui datent du paléolithique et 25 grottes ornées. Alors, on entend surtout beaucoup parler des grottes de Lascaux, mais en fait, c'est loin d'être le seul site préhistorique de la vallée de la Vézère. Elle s'étend sur une zone de 30 km sur 40 et elle se compose de 15 lieux différents. Il y a des grottes ornées, il y a des lieux funéraires, des habitats, il y a des haltes de chasse. Et tout l'enjeu aujourd'hui est de réussir à accueillir du public tout en préservant ce patrimoine exceptionnel. Alors si vous devez choisir un site, je vous propose d'aller visiter la grotte de Font de Gaume. Elle est située sur la commune des Aisy de Taillac-Sireuil. C'est un long boyau de 120 mètres qui abrite plus de 200 figures animales peintes et gravées.
Alors ça, c'est les visites à faire avec les enfants. Ah, ça les passionne généralement beaucoup plus que nous d'ailleurs.
Avec la petite lampe torche,
avec la lampe
c'est magnifique.
Torche, c'est vrai. Et enfin, on prend un peu de hauteur. Direction Montperdu, c'est dans les Pyrénées.
Oui, un massif calcaire qui culmine à 3352 mètres. C'est entre la France et l'Espagne. Le site de 30 000 hectares est classé patrimoine mondial depuis 1997. Il comprend deux des canyons les plus grands et les plus profonds d'Europe sur le versant sud, côté espagnol, et trois cirques importants sur le versant nord, qui est plus abrupt côté français. C'est un site exceptionnel avec des prairies, il y a des lacs, des forêts et des grottes. C'est un espace naturel préservé. C'est l'un des rares lieux en Europe où la transhumance s'est maintenue depuis des siècles, puisque sur le Montperdu, les fermiers espagnols continuent de faire paître leurs troupeaux du côté français. C'est suivant des accords qui ont été signés vraiment il y a des années. C'est des sites ancestraux.
Vous choisissez quoi, Guillaume Musso, la Corse.
La Corse.
Moi aussi, la Corse. C'est sublime. C'est vrai. Quoique une petite transhumance, j'aimerais bien essayer une fois cette expérience. Ça doit être absolument extraordinaire. Alors voyager, c'est bien, mais réussir à communiquer, c'est mieux, Lisa.
C'est mieux, oui. Alors ce matin, je vous propose d'apprendre 10 langues facilement avec l'application Speak.U. Ah,
mais ça, c'est pas qu'en vacances, hein, d'ailleurs.
Oui,
c'est tout le temps.
SP2EK2O. Alors, il n'y a pas le coréen, Guillaume Musso, mais il y a l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais. Il y a donc des langues plus compliquées, le chinois, le japonais, le russe, le grec et l'arabe. Et vous me direz, c'est plus compliqué puisque ce n'est pas le même alphabet. Eh bien, l'appli a retranscrit chacune de ces langues avec l'alphabet latin, donc c'est vraiment plus facile pour se lancer. On apprend avec des phrases qu'on écoute, c'est audio. Ensuite, on les tape dans l'application. On débloque comme ça plusieurs niveaux de difficulté l'un après l'autre. C'est un petit peu ludique, c'est très sympa pour apprendre les langues étrangères.
Alors, ça, c'est le truc idéal quand vous avez 5 minutes à perdre. Vous savez, vous attendez les transports. Ouais. Au lieu de jouer à des jeux débiles,
après
vous faites 5 minutes de Speak.U. C'est
voilà.
Ça comme ça,
Speak.U.
K2O. De toute façon, on vous met toutes les références, évidemment, des contenus dont on parle depuis ce matin 9h sur le site Europe 1. Si vous manque une information, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On sera très heureux de vous répondre. Vous interagissez aussi avec notre invité. On attend aussi vos cartes postales, papier ou numérique. Alors nous, on aime bien le papier parce qu'en plus, ça permet de décorer notre bureau, qui est un peu triste pour l'instant. L'adresse du club, c'est simple, c'est le 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris. Le 2 rue des Cévennes, on attend toutes vos cartes postales. Guillaume Musso, avant de refermer les portes du club avec la recette du jour d'Olivier Pouls, petit duo masculin et chouchou du public, Ed Sheeran et Justin Bieber qui chantent I Don't Care sur Europe 1. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I Ed Sheeran et Justin Bieber sur Europe 1 avant une autre star. Alors notre star à nous, il s'appelle Olivier Pouls.
Le club de l'été sur Europe 1.
Le cauchemar des sardines, l'angoisse des merguez.
Eva Rock.
C'est la dernière séquence de cet Europe 1 club de l'été consacré à Guillaume Musso avec un énorme éclat de rire de Lise
Pessac. Je suis très fan de ce
jingle. C'est un fan jingle. C'est un fan jingle. C'est un jingle spécial barbecue pour Olivier Pouls qui va nous en parler dans un instant. Guillaume, dans le Sud, on a la chance de pouvoir régulièrement faire des barbecues. Hein. C'est un vrai plaisir. Mais juste avant, on revient justement sur le vrai faux qu'on n'a pas eu le temps de faire là tout à l'heure, Olivier. Cette assertion qui affirme que ce seraient les Mongols qui auraient inventé le barbecue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Alors, votre avis?
Ben moi, j'aurais dit vrai parce que j'avais jamais entendu parler de cette histoire.
Je veux bien
mais...
y croire aussi.
Ouais. Oui,
alors,
vrai.
Les Mongols sont des spécialistes de la cuisson au feu et des barbecues. J'ai mangé d'ailleurs un barbecue exceptionnel là-bas, mais ce n'est pas ce peuple-là qui a inventé le barbecue tel qu'on le connaît. C'est un peuple amérindien, c'est une tribu qui s'appelle les Arawak et qui avait l'habitude de faire cuire et fumer leur viande sur des clés de bois qu'ils posaient au-dessus du feu. Et ce sont évidemment les conquistadors qui les ont rencontrés et qui se sont inspirés de ces techniques. Tout cela a voyagé évidemment. Et puis le mot barbecue, contrairement à ce qu'on peut penser, ne vient pas de barbecue, qui est une vieille expression française qui consistait à cuire les animaux après la chasse. Je ne vous explique pas comment, hein. Voilà, vous avez bien compris. Mais ça vient bel et bien de l'américain barbecue, et c'est la transcription exacte. Donc ce sont bel et bien un peuple amérindien qui ont inventé ce concept de la cuisson sur des clés en bois. Parce qu'évidemment, la cuisson au feu, ça se fait depuis 400 000 ans.
Oui, bien sûr.
C'est l'histoire de l'humanité.
Là, c'était simplement l'idée de poser les clés en bois,
voilà,
le concept.
Et puis le barbecue tel qu'on le pratique vraiment chez nous, a été révolutionné dans les années 1950 par un certain Weber, un Américain, un industriel, qui a eu l'idée de créer ce fameux barbecue rond qui a ensuite été décliné et qu'on voit toujours avec son couvercle,
Rolls Royce, hein.
La Rolls du barbecue. Et c'est vrai que ça reste un mode de cuisson extrêmement populaire.
Alors hier, vous nous donniez quelques bonnes idées, quelques bons plans pour bien cuire une côte de bœuf au barbecue.
Et ça fait débat, je peux vous dire que sur les réseaux sociaux,
précisé.
On en a
beaucoup
parlé. Alors le sel, le poivre, une fois encore.
Allons-y.
On peut saler sa viande plusieurs heures avant de la cuire, ça ne fait pas ressortir le sang, contrairement à ce qu'on peut penser. D'ailleurs, il n'y a plus de sang dans la viande puisque la bête a été saignée. Et on a fait des essais avec des chefs en salant la viande 12 heures, parfois 6 heures, 3 heures. Et on se rend compte qu'au plus la viande était salée tôt, au mieux le sel s'imprègne et au meilleur est la croûte finalement. Et en revanche, le poivre, une fois encore on le redit, le poivre brûle à 60 degrés et donc il perd ses arômes à partir du moment où il est mis sur le barbecue.
Alors on voulait parler d'autres viandes, notamment celle-là.
C'est la danse des canards qui en sortant de la main.
C'est bien fait pour vous ou encore celle-là. Arrête tout de suite parce que sinon
vous allez très loin.
On est allé très loin dans la réalisation sonore
contents,
de cette
savoir
émission.
Que le canard et l'agneau finissent sur le barbecue.
Bon, alors comment on fait ces brochettes d'agneau Qu'est-ce que vous voulez nous donner comme recette aujourd'hui?
Alors le canard, notamment le magret de canard, qui est une pièce, contrairement à ce qu'on peut le penser, qui est très maigre en dehors du gras qui est contenu au-dessus, c'est pas l'idéal de le cuire au barbecue parce que la graisse elle fond et donc elle va fondre sur les braises. En général, c'est un peu compliqué de gérer les retours de flamme. Donc on va plutôt la garder pour la plancha. On en parlera d'ici quelques jours. Mais l'agneau, bien sûr, ça c'est une viande qui est grasse, qui se prête extrêmement bien au barbecue, les petites côtelettes d'agneau par exemple.
Et puis, sinon, il y a des parties.
Il est 11h, Olivier, vite.
Bah oui, très vite, oui. Mais on va vous faire saliver un peu. Il faut des pièces qui ont du gras, parce qu'au moment de la cuisson avec le barbecue, bah, ce gras va fondre, il va pénétrer dans la viande et on va garder quelque chose de moelleux. Si vous prenez le poulet, par exemple, évitez de faire des blancs de poulet au barbecue. En général, c'est tout sec. Des hauts de cuisse, des pilons, etc. Et puis, demandez à votre boucher, moi, il y a une pièce que j'aime beaucoup, c'est l'épigramme. L'épigramme d'agneau ou l'épigramme de porc, c'est une pièce qui est contenue en dessous de l'animal, qui est très grasse, qui est très fine. Et qui là pour le coup se cuit au barbecue aller-retour. C'est vraiment
très rapide,
30 secondes de chaque côté, ça croustille tout de suite parce que le gras devient croustillant. Et puis là pour le coup, vous la salez et vous la poivrez au dernier moment, au moment de la servir.
J'ai oublié de demander à Guillaume Musso s'il n'était pas végétarien. Je suis en train de réaliser.
Au contraire, je salive.
Et sinon, le travers, qui est une pièce qui est très abordable, du travers de porc, ça coûte autour de 10-11 euros marché. C'est ce que les Américains font beaucoup, ils appellent les ribs. Ouais. Et donc là, vous les mangez avec les doigts. Et vous faites une petite marinade et régulièrement, pendant que le travers cuit et que vous le retournez, à chaque fois, vous passez
avec
votre pinceau. Voilà, et puis vous la réenduisez de cette marinade qui a deux vocations. Alors, elle va donner un petit peu de goût aussi, mais elle protège aussi la viande, notamment, vous savez que le barbecue, quand on en a bu, ça peut parfois être un tout petit peu toxique. Oui. Donc, vous allez régulièrement, avec votre pinceau, venir la protéger en quelque sorte et la renourrir avec cette marinade que vous pouvez composer d'un petit peu d'huile d'olive, de citron, d'herbe.
J'ai une petite recette soja et miel.
Voilà, du soja, du miel. On peut vraiment donner libre cours à son imagination. Et puis, surtout, faire plein de barbecue. Vous allez en faire, Guillaume ?
Ah oui, bien sûr.
Recette préférée au barbecue.
Ça aussi. Ah oui. Non, une bonne côte de bœuf.
C'est tellement bon. Alors, on s'excuse auprès des végétariens.
Oui, alors demain d'ailleurs, on fera des légumes au barbecue.
On fera des légumes au barbecue.
On va se rattraper parce
très bonne idée.
Il y a plein de légumes qu'on peut aussi faire au barbecue et c'est très intéressant comme type de cuisson.
Je vous rappelle que si vous testez les recettes d'Olivier, faites une photo, vous nous l'envoyez sur Twitter, qu'elle soit réussie ou pas, d'ailleurs la recette, il n'y a pas de raison. Si vous avez des questions pour Olivier, vous n'hésitez pas non plus, c'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1 parce que oui, ce club de l'été, je vous le rappelle, c'est le vôtre. Merci infiniment Guillaume Musso d'être passé par le Club de l'été. Votre dernier roman, La vie secrète des écrivains, publié chez Kalman Levy, est évidemment disponible en librairie. C'est un thriller, mais aussi une réflexion sur le métier d'écrivain qui devrait ravir tous les auditeurs. Et à quand le prochain roman ?
Il est en gestation.
En gestation, mais ça veut dire pour l'année prochaine, sortie, publication.
On ne sait jamais. Moi, ça m'est souvent arrivé de jeter 100 pages parce que on sait que c'était pas ce que je voulais finalement écrire. Là, c'est l'incertitude de ce métier qui reste vraiment très artisanal.
Olivier ?
Clin d'œil à mon ami Guillaume, éleveur d'agneaux à Noyères en Bourgogne, qui me dit, et l'agneau, mais bien sûr, l'agneau au barbecue, c'est magnifique. Hein.
Ah bah oui, pourquoi on n'a pas parlé de l'agneau tout à l'heure ?
Je sais pas, il me dit, et l'agneau. Je lui réponds tout de suite, bien sûr, l'agneau au barbecue.
Moi, je vous dis, les vacances idéales, c'est la mer, le soleil, un transat, un très bon livre, avec Guillaume Musso, évidemment, et brochette partie le soir avec un verre d'eau.
C'est vous qui venez les piquer ?
Et c'est moi qui viens piquer les brochettes, il n'y a pas de souci. Et alors, on ne revient pas sur le débat sur les saucisses et autres qu'on a eu déjà l'an dernier, vous
on
y
ne
répondrez.
Pique pas
sur
les saucisses.
On ne pique pas les saucisses, voilà, avant de les cuire. Donc le prochain roman, on attend. Merci beaucoup,
merci.
Guillaume
Musso.
Bonnes vacances à Antibes, parce que je sais que vous allez descendre un peu dans le sud.
Bonne piste à la Dière.
Si vous croisez Jean-Paul
Veziano
au plein cœur du centre-ville d'Antibes. Lisprezac et Olivier Pouls, on va se retrouver demain, même lieu, même heure.
Ah bon, on sera là.
Et deux invités demain pour nous accompagner et nous emmener en Bretagne. Alors on change totalement de région. On sera avec la journaliste Anne-Claire Coudray, qui officie à TF1, qui prépare en ce moment le 14 juillet, et le chef triplement étoilé Christian Lesquer, qui est aussi breton. Et je crois qu'il va falloir que vous nous regardiez en vidéo, parce qu'il semblerait qu'ils viennent faire un test, c'est-à-dire qu'ils viennent cuisiner un plat dans ce studio. Donc tous sur le site europe1.fr. Guillaume Musso, encore un immense merci et passez un très bel été. Je vous laisse en compagnie d'Anne Romanoff en vous souhaitant une très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.